Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Bienvenue dans la deuxième heure de BFM Patrimoine. Le marché parisien toujours en progression. 0,56% de hausse, 7063 points. On va en parler avec Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Belle séance, encore une fois, marquée par des publications de résultats.
Oui, effectivement, et c'est une séance assez impressionnante parce que on tutoie les 7100 avec la période des publications. On a vu que ça avait commencé aux États-Unis avec du bon et du moins bon, et en Europe et plus spécialement en France, on a vraiment pour le coup une saison de résultats qui part en fanfare, notamment avec STM, qui montait tout à l'heure de quasiment 9%, qui continue à monter, à progresser de 6% avec des résultats au-dessus des attentes, hein, puisque on a un chiffre d'affaires à 4,4 milliards, c'est à peu près 1 ou 2% au-dessus des attentes. Ce qui est plus impressionnant, c'est la marge incroyable qui est la marge brute qui est au-dessus des 47%, 47,5. Là aussi, c'est 25 points de base au-dessus des attentes. Donc on le sait, hein, les semi-conducteurs, c'est un secteur qui a été très très regardé, qui a un petit peu souffert à un moment donné, et là ça repart très très fort, et on voit que la demande, elle est quasiment structurelle malgré des faiblesses qu'on aura peut-être sectorielles sur certaines activités. Je pense notamment aux smartphones, mais globalement c'est un secteur qui est très 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 porté.
Publication aussi chez Soitec, on reste dans le secteur des semi-conducteurs, et puis Voltalia, ouais, aussi aujourd'hui.
Oui, effectivement. Donc, pour un petit mot sur Soitec, parce que la réaction est pour le coup médiocre, hein, par rapport à cette publication, parce qu'on le sait, hein, Soitec est très dépendant quand même de l'activité smartphone. Ça représente plus de 60% de l'activité. Il y a des faits plutôt négatifs. On voit que les ventes de smartphones sont un petit peu en souffrance. Il y a des faits déstockage qui pèsent un petit peu. Malgré tout, Soitec est en train de rééquilibrer quelque part ses business et à terme peut-être être un petit peu moins dépendant cette activité smartphone. Et sur Voltalia, c'est chiffre d'affaires, c'est un titre qu'on regarde beaucoup, notamment parce qu'elle fait partie de notre portefeuille ESG. Là aussi, on a un chiffre d'affaires qui est sorti au-dessus des attentes, hein, à plus de 500 millions. On attendait plutôt 480. Donc, on voit que la dynamique est toujours extrêmement favorable. Alors, le groupe ne délivre pas de guidance pour 2022, puisqu'on est en décalé. Mais pour 2023, là aussi, elle confirme pour le coup son objectif d'EBITDA de 300 millions. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On le sait, hein, la hausse du prix de l'énergie est un encouragement pour l'ensemble des sociétés du secteur qui fournissent des solutions non carbonées, et Voltalia fait partie de ces grands acteurs. Donc les objectifs 2023-2027 sont confirmés par la société, et on voit que le titre réagit bien après quand même un parcours qui a été exceptionnel ces dernières années.
Merci beaucoup Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Valeur en hausse donc ST Micro, on en a parlé, valeur en baisse Elior recule de 9,5%. Publication mal reçue par le marché. En baisse également SES Imago Tag, spécialiste des étiquettes électroniques connectées. Le titre perd 9%. On parlera des résultats d'entreprise dans un instant avec nos deux invités. Mais d'abord un point sur l'actualité.
BFM Business, l'info éco. Stéphanie Collot.
Rebonjour Stéphanie.
Rebonjour Stéphane. Et à la une, ce sont les résultats de ST Micro. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 26% à 16 milliards de dollars en 2022, tiré par la demande dans l'automobile et l'industrie. Le résultat net a presque doublé à 4 milliards. C'est supérieur aux prévisions. Et pour cette année, le fabricant de semi-conducteurs table sur une forte demande. Getlink, l'exploitant du tunnel sous la Manche, réalise un chiffre d'affaires record en 2022 à plus d'1,5 milliard d'euros, porté par le rebond rebond du trafic entre la France et la Grande-Bretagne. Une performance aussi liée à la mise en service d'ElecLink qui permet les échanges d'électricité entre les deux pays. Les projets de lithium se multiplient en Europe et notamment en France après Imerys dans le Massif central, Eramet et Électricité de Strasbourg signent un protocole d'accord exclusif. Les deux groupes envisagent d'extraire en Alsace 10 000 tonnes de lithium par an, ce qui correspond aux besoins de 250 000 batteries de véhicules électriques par an. Thales Alenia Space signe avec l'Agence européenne pour le programme spatial. Le groupe va assurer la maintenance du système européen de navigation par satellite, un contrat d'un peu plus de 100 millions d'euros sur 4 ans. La purge se poursuit dans la tech mondiale. L'éditeur de logiciels SAP supprime 3 000 emplois, soit 2,5% de ses effectifs dans le monde. Le groupe étudie parallèlement la vente de sa participation dans Qualtrics. De son côté, IBM supprime 3 900 postes. Ça représente un peu plus d'1% de ses effectifs. C'est dans le cadre de la réorientation stratégique du groupe. Une charge exceptionnelle de 300 millions de dollars a été inscrite dans les comptes. Changement surprise à la tête de Toyota. Koji Sato devient le PDG du premier constructeur mondial. Il en était jusqu'à présent le directeur opérationnel. Il remplace Akio Toyoda, le petit-fils du fondateur. Il était en poste depuis 2009 et il va désormais prendre la présidence du conseil d'administration. Toujours dans le secteur Renault et Nissan, proche d'un accord sur la refonte de leur alliance, le conseil opérationnel se rassemble aujourd'hui depuis le Japon. Un accord ferme est attendu en milieu de semaine prochaine et selon nos informations, le niveau de participation de Nissan dans Ampère, la nouvelle entité électrique de Renault, fait encore débat. On termine par un mot de la réforme des retraites et du mouvement de contestation. Aujourd'hui, ce sont les raffineries, les centrales électriques et les ports qui sont en grève pour une durée de 48 heures. Les expéditions de carburant sont interrompues depuis les sites de Total Energy. Mardi prochain, la grève touchera cette fois tous les secteurs à l'appel de tous les syndicats, Stéphane.
Merci beaucoup, Stéphanie Collot. La Bourse de Paris en hausse de 0,58%. Les futurs américains, le Dow Jones plus 0,12%. Le Nasdaq futur plus 0,44%. Place au débat.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Et nos deux débatteurs ce matin, Marc Ries, directeur général de Vega IM. Bonjour Marc.
Bonjour Stéphane.
Et face à vous, Olivier de Royer, gérant Action chez Montpensier Finance. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Olivier, merci d'être en plateau. Encore une série de publications ce matin, on vient d'en parler. ST Micro, Soitec, Voltalia. Les chiffres globalement sont bien accueillis par le marché. L'un et l'autre, quel est pour l'instant votre sentiment sur cette saison des résultats, Olivier?
Sentiment, c'est que c'est surtout la psychologie de marché qui s'inverse. C'est-à-dire que les résultats restent tout à fait satisfaisants, mais ils sont quand même moins brillants qu'ils étaient, par exemple, au premier semestre 2022, où il y avait des résultats parfois assez exceptionnels qui n'étaient pas salués parce que le marché avait peur de ce qui allait venir, avec un ralentissement macroéconomique, une inflation des coûts. Là, les résultats ralentissent un peu, mais par rapport à certaines prévisions apocalyptiques, c'est pas si dramatique. Et du coup, on est un peu à front renversé par rapport à ce qu'on a vu en 2022, avec un marché qui a envie de monter, qui entraîne les sociétés. Un Sartorius Stedims, par exemple, ce matin, qu'on n'a pas mentionné, qui réagit bien. Globalement, les prévisions sont un petit peu en dessous des attentes.
Le titre est en hausse de 4,6%.
Voilà. C'est un petit peu en dessous des attentes. Bon, néanmoins, c'est vrai que c'est une société qui a un parcours historique exceptionnel, hein, porté par vraiment des trends de croissance séculaire. Comme c'est quand même beaucoup moins cher que ça n'a été, finalement, les prévisions, en tout cas, suffisent et un certain nombre de gens n'ont pas envie de rater un éventuel train futur si on se fie à l'historique. Donc, c'est vrai que le marché est beaucoup plus positif. Sur ST Micro, c'est pas la première fois que les résultats sont au-dessus des attentes. Globalement, ils ont été même beaucoup plus au-dessus des attentes parfois certains trimestres l'année dernière. Là, c'est quelque chose comme 5% sur le premier trimestre. Mais il n'empêche que le titre a quand même pas mal corrigé depuis ses plus hauts et que ça réveille l'intérêt d'un certain nombre d'investisseurs, mais la psychologie a vraiment changé.
Vous êtes d'accord Marc, en temps de disette, on va dire, on se contente de peu ou de moins?
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a un petit freinage là, parce que, rappelons-le, 2022, ça a été une année qui était très mauvaise boursièrement, c'est vrai, mais où les résultats des entreprises ont quand même beaucoup monté. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez, on a une réalisation de résultats par les entreprises du CAC qui est 15% supérieure à celle de 2021. Donc, au total, on a un marché qui est pas plus cher, mais des bénéfices qui ont augmenté. Et alors, en particulier, ça, c'est vrai dans certains secteurs. Vous avez des secteurs qui ont énormément souffert, comme le luxe ou la technologie.
Rappelez-vous de Meta.
On se rappelle de Meta. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, ces boîtes n'ont pas nécessairement démérité. On a vu avec LVMH des résultats extraordinaires, etc. On voit là ce matin ST Microelectronics, quand même 4 milliards. C'est quand même pas, rien. C'est quand même pas rien. Ouais. Et donc, en fait, on a l'impression que finalement, ces secteurs qui ont beaucoup souffert boursièrement à cause de la hausse des taux, ben, somme toute, du point de vue de leur fonctionnement, ils restent très bénéficiaires de plus en plus. Et donc, ça permet ben, un peu un retour en grâce, un rebond de ces valeurs qui ont été quand même pas mal massacrées l'an dernier.
C'est peut-être aussi lié à la baisse des valorisations. On est évidemment exactement moins exigeant avec une valeur lorsqu'elle se elle paye 14 ou 15 fois les bénéfices, les prévisions de bénéfices, que quand elle est à 30, 35, 40, exactement, parfois au-delà dans le luxe.
Ça, c'est vrai pour le luxe et la techno. Ouais. Et même si on regarde à l'échelle globale du CAC 40, ça vaut aujourd'hui à peu près 12 fois les résultats qui sont attendus pour les 12 mois à venir.
On était combien, à combien l'an dernier ?
Oh, on était monté à 17 à un moment. Donc, ouais, à la fois, le marché a baissé et les résultats, eux, ont beaucoup progressé. Donc, bah, on a des actions qui ne sont pas si chères que ça.
Globalement, on peut quand même dire que ce n'est pas trop mal. On a passé des semaines à se dire, cette fois-ci, c'est la bonne. Les résultats vont décrocher. Les entreprises ne pourront plus avoir des gains de productivité. Une fois encore,
c'est pas le cas. Et puis le message, tant que gérant, on a vu les entreprises aussi dans les séminaires, etc. On a pu discuter avec eux. Le message, c'est que globalement, les carnets de commandes s'effondrent pas. C'est-à-dire que c'est par rapport à certaines années où on a pu connaître des messages vraiment très prudents. Bon, évidemment, c'est pas l'euphorie. Toutes les contraintes qu'on connaît de l'environnement, des hausses de coûts, etc. Mais les entreprises sont devenues assez agiles avec les successions de crises des dernières années et les carnets de commandes tiennent pas mal. Et bon, c'est oui. Donc le message est globalement assez rassurant. Après, dans le détail, c'est pas toujours au-dessus d'une attente précise, mais le message est rassurant.
Il y a aussi le fait qu'elles ont montré qu'elles arrivaient à monter leur prix d'une manière parfois éhontée, hein. On a vu certains intervenants d'ailleurs s'en émouvoir dans la distrie, etc. C'est qu'en fait, pas mal d'entreprises ont profité du fait qu'on parle d'inflation pour monter leur prix de manière scandaleuse et finalement s'en sortent pas si mal que ça du tout. En chiffre d'affaires et en résultats. Ce dont il faut se méfier, finalement, c'est des entreprises qui n'ont pas la capacité à répercuter sur leur prix de vente la hausse des coûts.
Le pricing power.
Pricing power, ça c'est clair. Mm-hmm. Et peut-être, deuxième chose qui peut être un peu abîmée, c'est tout ce qui tourne autour de l'immobilier à cause des hausses de taux, où là, ça freine quand même, quoi qu'on en dise.
Il faut dire qu'on vient aussi d'une année record en 2021 et d'une c'est année vrai. Qui n'était pas si mal que ça en 2022. On est en train de passer à côté du scénario du pire, apparemment, et notamment sur l'énergie. On a quand même débuté l'hiver avec la crainte de coupure d'électricité, avec des factures pour les artisans et les entreprises qui étaient parfois multipliées par 10 ou 15. Et là, on s'aperçoit finalement que le scénario ne sera peut-être pas si noir. Est-ce que ça vous rend plus optimiste en matière de perspective ?
Ah, quand même, ouais. Parce que on voit bien que ce qui a provoqué ces tensions inflationnistes, cette hausse des taux très forts des banques centrales, l'effondrement des marchés obligataires qui en a succédé, etc. C'était quand même lié, essentiellement au départ, à la hausse des prix du pétrole et du gaz. Le fait que ça reflue et qu'on soit aujourd'hui, par rapport à il y a un an, en dessous du prix du baril il y a un an, en dessous du prix du gaz il y a un an, ça enlève quand même une énorme inquiétude au marché. Alors c'est vrai qu'on va dire, bah oui, mais entre-temps, les salaires tirent, l'inflation a contaminé d'autres. Aussi. C'est vrai. Mais quand même, on sent que c'est ça qui avait déclenché. Et le fait que ça revienne en arrière, on se sent quand même mieux qu'il y a un an.
Olivier de Royer, soulagement aussi.
Oui, mais c'est clair que pour les entreprises cotées, c'est très positif. Alors malheureusement, pour l'artisan, c'est pas toujours visible, parce qu'avec les contrats un peu annuels, etc., il va continuer à payer cher s'il dénonce pas son contrat cette année. Mais pour les entreprises
cotées, le gouvernement y réfléchit quand même.
Alors peut-être, effectivement,
comme
mais
pour les boulangers.
Pour les entreprises cotées, en tout cas, globalement, il y a quand même pour un certain nombre de sociétés modulo leur stratégie de couverture. Quand même, certaines sociétés bénéficient très largement de ces baisses des coûts de l'énergie. Hein, je pense notamment à des secteurs, par exemple, comme le recyclage de métaux, où effectivement ils bénéficient aujourd'hui avec la réouverture de la Chine finalement d'une hausse des cours des métaux et où en parallèle les coûts de l'énergie ou du gaz finalement sont en forte baisse. Donc beaucoup de sociétés cotées en bénéficient largement. La question même pour certaines va être de justifier finalement leur prix de 2023 compte tenu des prix du gaz et électricité actuels. Parfois ça peut être un sujet, mais non, globalement c'est clairement un soulagement.
On va parler des taux dans un instant. J'aimerais d'abord qu'on parle de croissance. On connaîtra tout à l'heure les chiffres de la croissance américaine pour le quatrième trimestre. Le consensus, c'est un PIB en hausse de 2,6%. 3,5% pour le T4, après une croissance de 3,2% le trimestre précédent. Le constat qu'on peut faire déjà, c'est que la récession technique des premiers et deuxièmes trimestres l'an dernier, elle a rapidement été balayée.
Oui, avec la sortie de Covid aux États-Unis, les consommateurs ont repris le chemin des magasins. C'est très vrai ce que vous dites, hein, Stéphane, qu'effectivement, on attend autour de 2,6 de croissance du PIB américain au quatrième trimestre. C'est pas si mal que ça, 2,6.
Ça ralentit, mais c'est très bien.
Ça reste quand même
on
honorable.
On s'en compte entrée en Europe.
On s'en compte entrée. Et ce qu'il faut dire, pour préciser ça, c'est que sur ces 2,6, c'est quand même 2,9 d'attente de hausse de la consommation des ménages. Donc on voit que ce 2,6, il est bâti pas mal, pas tellement par l'industrie, l'énergie, etc., mais parce que finalement, les consommateurs ont de l'épargne, le marché de l'emploi paraît toujours solide, et pour le coup, ils dépensent. Et on sait que nos amis américains, c'est un peu leur tendance. Et donc finalement, y a ça qui fait que ce ralentissement économique qu'on pouvait imaginer a quand même pas complètement lieu. Par rapport à ça, on voit que la hausse, que regarde la Réserve fédérale, c'est-à-dire le PCE, l'inflation core, on l'attend quand même en baisse aussi, vers 3,9. Alors c'est plus que les deux.
L'inflation sous-jacente.
Voilà, cette inflation. Donc 3,9, bon, c'est encore trop aux yeux de la Réserve fédérale, mais on vient de 4,6. Donc voilà, on sent que ça se calme un peu. Donc c'est quand même un contexte où, bon, maintenant tout va dépendre de l'attitude des banquiers centraux dans les mois qui viennent. Hein.
Votre sentiment ?
Oui, je n'ai pas jugé du chiffre de cet après-midi, d'autant que les ventes au détail, quand même, étaient un chiffre un peu médiocre quand même la semaine dernière. Mais globalement, si on prend un peu de recul, effectivement, par rapport à ça, on s'aperçoit que, en tout cas, le scénario de la récession dure aujourd'hui est écarté. Qu'on ait à un moment donné une légère récession technique ou qu'on soit en croissance, on reste de toute façon quand même dans un environnement de croissance nominale, faut pas l'oublier, qui est quand même assez soutenu. Et donc, ça reste un environnement qui est tout à fait constructif pour les entreprises. On voit qu'en Europe, les PMI, quand même, finalement, se tiennent autour de 50. Donc, on a un environnement de croissance qui, certes, ralentit par rapport à ce qu'on a connu, mais qui finalement reste convenable. Et puis, on a cette désinflation maintenant qui est quand même clairement ancrée, c'est-à-dire que pendant toute une partie de l'année dernière, on avait des chiffres d'inflation qui à chaque fois surprenaient à la hausse. Maintenant, on est plutôt dans une tendance inverse. Clairement, aux États-Unis, on est passé de 9,1 à 6,5, mais même en Europe, la BCE ne veut pas trop l'entendre, mais quand même, c'est déjà aussi un peu le cas. Très clairement, cette désinflation, elle peut aussi soutenir la demande à un moment donné, parce que l'inflation, elle ponctionne du pouvoir d'achat des
gardez vos cartouches sur la BCE, on va en parler dans un instant. D'abord, j'aimerais votre sentiment sur la conjoncture en Europe. Est-ce que vous avez l'impression aussi que dans la zone euro, également, on est en train d'éviter le pire? Je vous donne quelques chiffres, les derniers qui ont été publiés. PMI composite dans la zone euro qui est repassé au-dessus des 50, donc de nouveau en phase d'expansion. Le climat des affaires qui s'améliore dans plusieurs pays, notamment en Allemagne. Et le ministre de l'économie en Allemagne qui prévoit une croissance de 0,2% pour 2023. Là encore, on est en train de passer entre les gouttes.
Ça fait pas rêver, mais oui, on passe entre les gouttes. On sent qu'on a fait une forme de point bas. Et quand même, il faut dire qu'en Europe, l'aspect coût de l'énergie, c'est quand même un aspect très européen. C'est-à-dire, le pétrole avait monté dans le monde, mais était à des niveaux qui étaient élevés sans être stratosphériques. Il y avait vraiment le gaz et l'électricité en Europe qui était le très gros sujet spécifique à l'Europe. Et comme ça s'allège, évidemment, ça vient quand même donner une bouffée d'oxygène à la conjoncture européenne.
Mais ça reste fragile quand même, Marc.
Oui,
que les prix de l'énergie repartent à la hausse.
C'est ça. Surtout, on sent que l'Allemagne a cette fragilité quand même, vraiment très forte à l'approvisionnement énergétique. Ouais. Là, ce qui fait que les Allemands sont un peu moins pessimistes qu'ils n'ont été cet hiver, c'est qu'ils jouent sur le fait que la Chine peut redémarrer avec la fin des mesures anti-Covid.
Mais sauf que le redémarrage de la Chine, ça va pas faire grimper les prix du gaz. On va se retrouver en concurrence avec les Chinois sur le GNL.
Voilà. Là, c'est sûr qu'il faut pas que ce soit trop rapide non plus pour pas faire trop remonter le pétrole et le gaz. Mais globalement, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une dépendance spécifique de l'économie allemande à cette ouverture sur la Chine et que quand la Chine freine, comme elle l'a fait ces derniers temps, ça pénalise quand même beaucoup l'Allemagne. Donc il y a ce petit...
Oui, clairement, la réouverture Chine, c'est clairement du positif à court terme. Au deuxième semestre, peut-être que ça peut être un sujet de tension de matières premières et d'une inflation qui ne baisse pas autant qu'on voudrait. Mais à court terme, c'est quand même du positif.
Bonne nouvelle. La semaine prochaine, donc, ce sera la semaine des banques centrales. Réunion de la Fed mardi et mercredi. Réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi. Réunion de la Banque d'Angleterre jeudi également. Qu'est-ce que vous attendez l'un et l'autre de ces réunions? On va commencer par Marc.
Oui. Alors, Moi, ce qui m'a un peu intéressé, ça a été la réaction déjà de la Banque du Canada, qui a été la première finalement à...
Grande banque centrale,
voilà,
à se réunir.
Voilà, la première à se positionner un peu. Et on sent qu'on se dirige quand même, alors après, il peut y avoir des avis différents bien sûr, mais vers une sorte de stabilisation, à des niveaux assez élevés quand même, des taux. Alors, là, aux États-Unis, vous l'avez vu maintenant, on pense qu'ils vont monter de 0,25 ce mois-ci, puis encore de 0,25 le mois prochain. Ça, c'est ce que les marchés anticipent plus ou moins. S'ils font ça, c'est ce qu'ils font, ce qui est attendu, on va se trouver à 5% de taux offerts de la Fed.
Voyez,
on
ça restera quand même la remontée des taux la plus spectaculaire
la plus
depuis
spectaculaire,
Volcker
dans les années 80. Et puis 5%, ça calme quand même, parce que entre emprunter de l'argent à 0 ou l'emprunter à 5, ça revient pas tout à fait au même. Donc je pense que ça peut en soi être déjà quelque chose d'efficace, que c'est suffisant. Et ce que le marché écoute ou entend quand il écoute ça, c'est-à-dire, ça y est, c'est un peu derrière nous la hausse des taux. Alors, ce qui est plus surprenant, Stéphane...
Vous n'avez pas l'air complètement convaincu quand vous dites ça.
C'est-à-dire qu'en fait...
Le marché entend...
En fait, voilà, lui...
Vous n'êtes pas convaincu que ce sera un plateau et que...
Ce qui m'inquiète, en fait, Stéphane, c'est la taille du plateau. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, là, dans la remontée qu'on a eue tous ces derniers temps, le marché a un peu vite enterré le fait que les taux étaient chers. Or, s'il le reste assez durablement, il peut y avoir quand même des moments où il se dit, on s'est un peu emballé. On peut imaginer une correction des marchés qui serait liée au fait que les taux restent élevés plus longtemps qu'ils ne pensent et ne commencent pas tout de suite à rebaisser. Ça, c'est une chose, c'est pour les taux américains. Par contre, pour la BCE, moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression qu'elle s'est réveillée très tard début 2022 pour commencer à monter ses taux. Et par contre, maintenant, on a l'impression que qu'il y a encore beaucoup d'inflation, qu'il faut aller beaucoup plus haut, etc. Ça me surprend un peu. J'ai l'impression qu'ils ont une sorte de retard à l'allumage et que maintenant ils ont une sorte de retard au désallumage. Voyez.
Olivier, vous êtes
est-ce que ça doit vraiment nous surprendre en fait, parce qu'on a un peu l'habitude, c'est-à-dire qu'on sait que les banques centrales, finalement, elles sont toujours en retard par rapport au cycle des marchés, et que la BCE et l'Europe est toujours en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est pas une grosse surprise. C'est vrai qu'on sait qu'en plus en Europe, il y a quand même toute l'Europe du Nord et l'Allemagne qui est très sensible sur la thématique inflation. Donc pendant 10 ans, ils ont dit ça va arriver, c'était pas là. Bon, maintenant forcément, on entend surtout les faucons.
Enfin, on peut le dire pendant 10 ans et finir par avoir raison. Oui, ça fait une horloge arrêtée à raison deux fois par jour.
En tout cas, aujourd'hui, les faucons de la BCE, clairement, ont pris la main dans la communication. Donc, en plus, c'est surtout eux qu'on entend avec Glasnost aux Pays-Bas, avec tous les gouverneurs autrichiens, allemands, etc.
Casimir.
Donc, c'est vrai que on entend surtout ça aujourd'hui, mais en général, il faut quand même mieux regarder les marchés de taux, puis la Fed, où on voit déjà certains membres s'exprimer de manière un peu plus modérée. Et malheureusement, c'est pas toujours la BCE qui a raison contre le marché.
Je voulais qu'on parle de croissance avant de parler des banques centrales, parce qu'en fait, la question est la suivante. Vu que la croissance va être sans doute meilleure que ce qu'on redoutait il y a encore quelques mois, est-ce que les banques centrales ne vont pas se dire, finalement, je peux encore relever les taux, je peux encore lutter contre l'inflation en resserrant ma politique monétaire, puisque pour l'instant, l'économie résiste?
Non, je crois que...
Rappelez-vous de ce que disait la BCE.
Oui.
On n'hésitera pas à mettre l'économie en récession si besoin.
Oui, la BCE, d'abord, elle est un peu à la remorque de la Fed. Elle pilote aussi le taux de change euro-dollar. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Clairement, aujourd'hui, on voit bien quand même que l'inflation américaine ralentit. On sera quand même probablement pas loin des 3,5 d'inflation d'ici le mois de mai aux États-Unis. Donc, tout ça va quand même permettre à minima à la Fed de faire une pause. Pour moi, la grande question, c'est que finalement, qu'est-ce qui peut se passer à plus long terme? C'est-à-dire que baisser l'inflation à 3,5, ça, on va y arriver. Mais baisser à 2, ça va être plus dur. Donc, est-ce que les banques centrales veulent s'arc-bouter sur ces 2% ou est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un changement de discours après une phase de marché peut-être un peu plus compliquée en fin de deuxième semestre et où finalement les banques centrales axent que peut-être que 3,5 sur le long terme, c'est pas si mal que ça, qu'il y a le coût de la transition énergétique et que cette transition, on doit la faire et que donc finalement, peut-être ça implique des taux d'inflation un peu plus élevés dans la durée. Mais pour moi, la grande question est plutôt là.
On va parler de stratégie, il nous reste 4 minutes, vous êtes des professionnels de l'investissement l'un et l'autre. Comment est-ce que vous allez vous positionner cette année, ou en tout cas pour le premier semestre, Marc ?
Nous on avait racheté un peu quand même, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on voyait que c'était quand même un peu très exagérément baissier. Voilà. Et alors la dernière chose qu'on a acheté nous, pour raconter la vie de Vega depuis 40 ans, c'est du Nasdaq. Parce que si vous voulez, ce qu'on a constaté, c'est que pas mal de belles valeurs avaient déjà pas mal rebondi. Vous voyez, typiquement, par exemple, le luxe, ce matin, LVMH est repassé au-dessus de 800, Donc elle est au-dessus aujourd'hui, par exemple, des niveaux de janvier ou de février 2022, il y a un an. Si vous regardez Hermès, c'est pareil, on est au-dessus de 1650 euros, après tomber à 900 en juin dernier. Donc ces valeurs-là, si vous voulez, elles ont déjà rebondi.
LVMH vous fait mentir, on est à 799 euros.
Ah mince, alors baissé.
Juste sous la barre.
Ah, allez, elle était à 800, tout à l'heure.
Bon, bah, voilà.
Allez. Elle est... et ce que je veux dire par là, vous voyez, c'est que ces valeurs-là, en fait, elles ont déjà pas mal rebondi.
Ouais.
Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit rebondir? Bah, on en a eu un très bon exemple ce matin, vous le disiez tout à l'heure, avec STMicro. Mm-hmm. Bah, c'est justement un peu ces valeurs techno qui, elles, ont pas tant rebondi que ça. Quand vous regardez des Amazon, des Google, des très très belles valeurs mondiales de technologie, elles sont encore à moitié prix par rapport à ce qu'elles étaient il y a plus d'un an.
Mais quand vous dites j'achète du Nasdaq, vous achetez ces grosses valeurs, du Meta?
Voilà.
Du...
Alors Meta, non. On n'aime pas les réseaux sociaux.
Vous ne croyez pas au Metaverse?
Alors, vous savez, c'est un peu comme le gars qui a investi dans le canal de Suez. Il a fini par avoir raison,
mais 50 ans après.
Au début, ils ont été ruinés. Pareil pour le tunnel sous la Manche, etc. Donc, le métaverse, c'est pas que j'y crois pas, parce que j'en sais rien, en fait, si ça marchera ou pas.
Ça concernera nos enfants.
Mais voilà, ça part un peu tôt pour y aller, voilà.
Olivier, qu'est-ce que vous achetez, vous, en ce moment?
Écoutez, globalement, chez Montpensier, on était plus constructif que le marché sur les marchés actions depuis plusieurs mois, avec cette désinflation qui nous semblait quand même assez visible et une croissance qui se tenait finalement pas si mal que ça. Donc, on continue à l'être sur le premier semestre. Peut-être plus de prudence plus tard dans l'année, effectivement, en fonction de taux d'inflation qui pourrait peut-être baisser moins à ce moment-là. Mais globalement, aujourd'hui, avec en plus la contribution de la réouverture Chine, qui est favorable dans un certain nombre de secteurs. C'est vrai que le luxe, ça a bien marché, mais ça peut quand même continuer, puisque les Chinois ont accumulé beaucoup d'épargne, hein, comme nous, pendant le Covid. Donc, on sait qu'ils sont très friands de luxe, donc pourront continuer à dépenser. Ça peut être aussi favorable à certains secteurs, je dirais, un peu early cyclical, hein, notamment l'automobile, alors qu'on va être beaucoup plus prudent sur les secteurs de fin de cycle, comme la construction et tout ce qui est dérivé de la construction. Peut-être aussi également sur les métaux. Je citais tout à l'heure des recycleurs qui sont globalement plutôt bien positionnés avec les hausses des métaux venant de Chine et la baisse des coûts de l'énergie en Europe, hein, la transition climatique reste toujours un thème pour nous extrêmement important. Et puis, en valeur de croissance plus défensive, dans la santé, il y a quand même des très belles sociétés de croissance de long terme qui finalement ont beaucoup baissé de multiples en 2022, alors que finalement l'innovation médicale atteint des niveaux records dans la biologie. Il se passe des choses quand même assez incroyables. Donc voilà, des pistes pour un portefeuille assez équilibré en termes de style aujourd'hui chez nous.
C'est intéressant, vous dites l'un et l'autre, il y a une fenêtre de tir maintenant. Vous êtes plus prudent sur la deuxième partie de l'année?
Oui, c'est un peu
ça. J'ai mal entendu ou c'est...
Non, c'est un peu ça. C'est qu'effectivement, on a l'impression que là, le marché, finalement, a eu très peur de l'inflation.
Donc,
il en a moins peur, il rebondit. Voilà, il a eu très peur des banques centrales. Hein. Mais effectivement, on reste quand même vigilant pour le deuxième semestre parce qu'on se dit, si les banques centrales s'accrochent à ça, ça peut quand même faire des dégâts. Et moi, mon deuxième sujet d'inquiétude, je l'ai dit au début, hein, c'est un peu l'immobilier.
Ouais.
On voit, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des chiffres américains qui vont tomber cet après-midi, il y en a un quand même qui est attendu vraiment mauvais, c'est les ventes de maisons neuves à moins 6,2. Ça, on n'en a pas parlé, mais par rapport aux autres chiffres qui étaient globalement plutôt bons, etc., celui-là est pas topissimus.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin en plateau. Marc Reyes, directeur général de Vega Investment Managers, et Olivier de Royer, gérant action chez Montpensier Finance. À suivre dans un instant les marchés, on donnera la parole à Jean-Louis Cussac, trader formateur chez Perceval. Le CAC est en hausse de 0,67%. Ensuite, c'est Julie Cohen qui nous emmènera à la montagne. On parlera d'investissement responsable. Est-ce qu'acheter à la montagne, c'est vraiment responsable? Réponse dans quelques minutes.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Stéphane Pedrazzi.
11h, bientôt passé de 32 minutes, le CAC est toujours en hausse, il gagne 0,67%. On va parler avec Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval Finance. Rebonjour Jean-Louis, 7090 points, quel est votre regard sur cette séance?
C'est un regard, on va dire, un peu d'attente. De toute façon, il se passe pas grand-chose. Il y a peu d'écart entre les extrêmes depuis l'ouverture du marché. Il n'y a pas grand-chose à exploiter pour un trader opportuniste, on va dire. Et sinon, qu'on surperforme le DAX, on surperforme les autres marchés grâce STM qui fait plus du double en volume que LVMH, qui est la deuxième valeur traitée sur le CAC, et la bien sûr une très grosse pondération, puisque LVMH est 13,5 et STM c'est 1,67. Mais la hausse de STM a un impact de 7,5 points environ sur le CAC 40. C'est même monté à un moment donné à un petit peu plus de 10 points quand elle était quasi à 9% de hausse. Donc voilà, ça tourne un peu autour de ça. Il y a beaucoup de régularité. Les bancaires, qui représentent aussi quand même 6,5 de l'indice, progressent bien. Elles sont à 1,5 en moyenne de hausse. Société Générale, BNP, c'est pas mal. Pour le reste, donc c'est assez calme. On est acheteur pour la journée, potentiellement jusqu'à 7,050. Sur du court terme, jusqu'à 6,950. Et c'est sous 6950 que je déclencherai le signal d'un retracement que j'attends depuis maintenant en fait à peu près 6-7-8 jours, puisque j'avais dit dans cette zone des 7100, je tire un peu la trappe, j'allège mes positions et j'espère un retracement. Mais il n'y a toujours pas, si vous voulez, d'indication que le marché va le faire rapidement. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que ce marché réagit très bien. Et quand il a baissé un petit peu ces derniers jours, j'ai bien dit qu'il n'y avait rien de méchant et que je ne voyais pas, toujours pas, d'indication que le marché puisse baisser davantage. Donc on voit aux États-Unis des chiffres de sociétés qui sont pas terribles. En Europe, c'est bon. L'euro-dollar, l'euro reste ferme. Tout ça favorise les investissements dans la zone euro. Et la zone euro surperforme les États-Unis. Donc un marché, si vous voulez, rien, pas de scoop. Toujours pareil, hein, toutes les questions métaphysiques autour des taux d'intérêt, de ce que feront ou pas les banques centrales, ça reste d'actualité. La guerre en Ukraine, les bruits de bottes sont de plus en plus forts, mais bon, personne pour l'instant encore ne s'en inquiète sur les marchés. Donc copier-coller des jours précédents, il n'y a rien à signaler de particulier, tendance haussière non infirmée.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval. Le CAC donc en hausse de 0,67%, on est à 7090 points. Tout de suite sur le green.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Avec Julie Cohen qui aujourd'hui va nous tenter de répondre à une question. Est-ce qu'investir à la montagne, c'est vraiment un placement responsable? Bonjour Julie.
Bonjour Stéphane.
Les vacances d'hiver débutent dans moins de 10 jours pour la zone A. L'occasion pour certaines familles, évidemment, de s'évader à la montagne. Sauf que le prix moyen d'une semaine au ski peut vite atteindre des sommets. Les professionnels du tourisme, Julie, estiment qu'une semaine au ski coûte en moyenne entre 900 et 1000 euros par personne, soit un budget d'environ 4000 euros pour une famille avec deux enfants. Alors si vous vous rendez à la montagne plusieurs fois par an, peut-être que ça peut être opportun d'y investir plutôt que de louer. Pour autant, est-ce qu'on peut considérer que c'est un placement responsable, Julie? D'abord, quand on parle d'investissement à la montagne, de quoi est-ce qu'on parle précisément?
Quand on parle de placement vert, investir à la montagne, ce n'est vraiment pas une mince affaire. Il faut pouvoir prendre en compte, Stéphane, un certain nombre de critères. Et pour autant, il est possible, en fonction de votre budget, soit de vous faire construire des chalets en bois écologique, soit tout bonnement de privilégier des stations qui se sont engagées à limiter leur empreinte carbone, et ce, tant au niveau de leur mode de construction que de la gestion des activités proposées.
Alors, on commence par les chalets.
Alors, je le sais, Stéphane, vous qui êtes une star des pistes, un aficionado des cimes, un expert du chousse, peut-être avez-vous envie, après une longue journée faite de carving ou de slalom, de vous retrouver donc dans un chalet à la fois cosy, chaleureux et bâti de façon responsable. Eh bien, ça tombe bien, puisque le chalet, c'est l'incarnation même de l'habitat responsable en montagne. Pour faire simple, un chalet, c'est en général en grande partie fait de bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et le bois, eh bien, c'est un matériau vivant aux multiples avantages écologiques. D'abord, parce que la croissance du bois, eh bien, elle ne nécessite que très peu de CO2. Ensuite, parce que sa transformation, eh bien, c'est une opération peu polluante. Les chantiers de construction ne requièrent généralement ni bétonnière, ni grue. Et enfin, eh bien, côté isolation thermique, le chalet en bois ne nécessite que peu d'énergie pour le chauffage. On est donc sur une empreinte écologique qui est plutôt faible, en tout cas bien plus faible que celle d'une maison traditionnelle qui serait faite de béton et d'acier, Stéphane.
Donc j'entends bien le côté responsable du chalet, mais c'est un investissement évidemment qui n'est pas à la portée de tout le monde.
Alors, c'est effectivement un petit budget, mais bon, j'ai envie de dire comme pour tout achat immobilier. Selon une étude qui a été réalisée l'an passé par Prélo, c'est un spécialiste des résidences secondaires, le prix moyen d'un chalet, il est de 3100 euros le mètre carré, ce qui sur le papier n'est pas si élevé hein, comparé au prix au mètre carré qu'on peut constater dans les grandes villes. Donc résultat, si vous envisagez d'acquérir un chalet eh bien, de 100 mètres carrés à la montagne, eh bien hors frais d'agence, hors frais d'emprunt, il faudra débourser environ 310 000 euros. Mais évidemment, on le rappelle, il s'agit d'une moyenne. Et selon l'altitude, le taux d'enneigement, l'ampleur du domaine skiable et la notoriété de la station, eh bien, les prix peuvent sensiblement varier.
Justement, est-ce que vous avez quelques exemples? On sait que dans les grandes stations, ça peut grimper très vite.
Alors oui, hein, Stéphane, selon nos observations, on prend par exemple l'exemple donc de Val d'Isère, c'est un petit village huppé, niché à 1850 mètres d'altitude. Alors certains chalets de très haut standing, ils peuvent afficher des prix à plus de 10 millions d'euros. Alors bien sûr, on parle ici de chalets qui sont neufs, voilà, très luxueux et de plusieurs centaines de mètres carrés. Quelques chalets un petit peu plus anciens, un petit peu plus petits, sont accessibles à partir de 2 millions d'euros. Aux Ouches, près de Chamonix, à 1000 mètres d'altitude, certains chalets donc sont disponibles à la vente à partir de 700 000 euros et peuvent atteindre 3 millions d'euros. Puis à Gérardmer, dans les Vosges, eh bien, quelques chalets sont disponibles à partir de 250 000 euros. Et dans la fourchette haute, les prix peuvent parfois flirter avec les 2 millions d'euros.
Ça, c'est ce qui concerne évidemment les chalets. On le sait, Julie, les stations de ski sont connues pour leur consommation d'électricité, ne serait-ce que pour faire fonctionner les remontées mécaniques. Le recours aux fameux canons à neige qui ont aussi été critiqués, eux aussi, ils consomment de l'eau et de l'électricité. Et puis, il y a, puisqu'on parle d'immobilier, le fléau des passoires thermiques qui touche près d'un logement sur deux dans les stations de ski françaises, Julie.
Ah oui, hein, Stéphane, vous avez tout à fait raison. Mais heureusement, les acteurs du tourisme sur place ont largement pris conscience de tout cela. Et cela, eh bien, ça ne date pas d'hier. Hein. J'en veux pour preuve une démarche labellisante lancée par l'association Mountain Riders qui garantit l'engagement durable des destinations touristiques de montagne. Cette démarche, elle a vu le jour en 2011. Elle répond au nom de Flocon Vert. Et cette démarche, eh bien, elle a pour but d'accompagner les territoires dans leur transition écologique. L'objectif affiché, il est clair. Faire en sorte que les territoires labellisés puissent adresser aux passionnés de montagne, une vision claire de ce que doit être une destination touristique engagée.
Le Flocon Vert, quelles sont les stations, Julie, qui ont obtenu ce sésame ?
Alors, il y en a un certain nombre. C'est notamment le cas du Grand Bornand, de Morzine-Avoriaz, des Arcs, de Megève, de Valberg, de Tignes, de Val d'Isère ou encore de Saint-Gervais, pour ne citer qu'elles. Et puis, ce qu'il faut savoir surtout, Stéphane, c'est que ces stations, pour pouvoir obtenir le label Flocon Vert, eh bien, elles ont dû répondre à un cahier des charges assez strict qui est composé de 20 critères, des critères qui concernent par exemple la mobilité durable, la réduction du bilan carbone des stations, le soutien aux entreprises locales, la lutte contre l'artificialisation des sols ou bien encore la réduction de la consommation énergétique des domaines skiables. La liste, là encore, est loin d'être exhaustive.
Et du coup, Julie, pour résumer et tenter de répondre à la question, est-ce qu'il est possible d'investir in fine de façon responsable dans des stations de ski?
Bien, je serais tentée, Stéphane, de vous indiquer qu'on est sur la bonne voie. Alors certes, hein, on recense encore une multitude de passoires thermiques. Certes, la consommation énergétique sur place reste particulièrement élevé. Mais les acteurs de ces stations, ceux qui vivent toute l'année, ceux qui voilà, vivent du tourisme, eh bien, ils ont pris la mesure de tout cela, et ce, bien avant les investisseurs qui aspirent à donner du sens à leur placement. Donc oui, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre des sommets en matière d'investissement responsable à la montagne. Mais on est clairement, Stéphane, sur la bonne piste. Et cette piste, elle est doucement, et espérons sûrement, en train de passer du rouge au vert.
Merci Julie. Notre flocon vert ce matin dans le studio, Julie Cohen. Julie Cohen-Heurton, journaliste BFM Business. Vous avez des questions, ça tombe bien. Jean-François Fillâtre a les réponses.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Jean-François qui est de retour en plateau, directeur éditorial de Marché Gagnant. On va répondre aux questions dans un instant, mais, pour commencer, le petit journal du fonds en euros.
Allez, on commence ce petit journal, le dernier donc du mois de janvier. On commence avec la MIF. Alors la MIF, c'est une mutuelle qui était historiquement très liée au monde ferroviaire. Alors je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait grève cette année sur leur taux de rendement, puisque le taux de rendement qui est annoncé sur leur contrat d'assurance vie est de 2,20%. Alors, c'est assez intéressant. Plusieurs remarques par rapport à ça. En fait, les deux années précédentes, ils avaient sorti 1,70. Historiquement, il y a une dizaine d'années, ils s'étaient vraiment distingués parce qu'ils étaient clairement toujours devant. Ils étaient un peu rentrés dans le rang, mais en étant quand même dans la bonne moyenne, puisque on rappelle que 1,70, l'an dernier, la moyenne, c'était 1,28. Alors, je me suis dit, tiens, ils sont restés stables en 2020 et en 2021. Ils étaient donc à 1,70, là où le marché, lui, était resté stable à 1,28. Donc, je me pose la question, cette année, ils font 50 centimes de plus. Est-ce que ça va être la tendance du marché? Je pense qu'ils vont être un peu rattrapés par la moyenne, parce que je pense que la moyenne sera plus proche de 1,90 que de 1,80. Toujours est-il que un taux qui reste un taux de bonne qualité, on a légèrement puisé dans les réserves puisqu'on a pris un peu moins de 10% des réserves pour distribuer ce taux-là. À noter que, à la différence de ce qui s'était passé l'an dernier, le produit d'épargne retraite a un taux qui est différent. Il est de 2,50 et c'est un actif qui est un actif cantonné. Deuxième taux, toujours dans l'univers des mutuelles, on regarde ce qui se passe du côté de AG2R, la mondiale. Alors, AG2R La Mondiale annonce une performance moyenne sur l'ensemble de ses contrats de 1,76%. C'est 35 centimes de plus que l'année précédente. Alors, petite remarque quand même sur la... Donc, là, par contre, on est un peu... voire nettement en dessous de ce qui se passe sur la moyenne des marchés, puisqu'on rappelle que chez certains acteurs, notamment, on le disait la semaine dernière, chez certains bancassureurs, on a eu des hausses qui allaient quasiment jusqu'à un point. Mouvement assez fort sur les politiques de bonus.
Ouais.
On a accéléré les politiques de bonus, notamment sur la gamme, sur l'offre Terre de Vie, puisque désormais, si vous avez peu d'unités de compte, on vous donnera 1,25 contre 0,86 l'année précédente. Et si vous avez plus de 80% d'unités de compte, on vous donnera 3,25. Alors... Pardon, mais je continue d'avoir un gros problème avec ces sujets-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on a passé, nous, journalistes financiers, des années à faire de la pédagogie pour dire aux gens qu'il fallait qu'ils regardent les conditions contractuelles de leur contrat, notamment sur la participation aux bénéfices, pour choisir leur contrat. Bah, en pratique, on peut constater que cette recommandation n'a strictement servi à rien. Pourquoi ? Parce que les assureurs font ce qu'ils veulent en fonction de leur intérêt et notamment du taux d'unité de compte, et que autant cette pratique me paraît être entre guillemets tolérable pour faire évoluer un certain nombre de choses, autant quand on est dans des ratios de 1 à 3, là on y est quasiment puisqu'on part de 1,25 pour aller à 3,25, je trouve que c'est beaucoup. Je l'avais déjà dénoncé l'autre jour sur le dossier de CNP et de Nuance 3D à la Caisse d'Épargne, je trouve que c'est un peu too much. On continue du côté des mutuelles, et alors là je vais ouvrir un chapitre que je n'ai pas ouvert depuis le début de la saison.
Pas encore.
C'est donc une exclusivité. C'est les contrats dont le taux de rendement baisse. Incroyable, mais vrai. Et oui, il y en a cette année.
Alors, ça se passe chez Monceau ?
Alors, ça se passe chez Monceau, avec une baisse de la performance. Alors, Monceau, il faut savoir, notamment si on regarde le contrat à Dynavi, mais la stratégie de Monceau, historiquement, c'est d'avoir un actif qui est très diversifié, peu obligataire, beaucoup d'actions, et donc un taux de rendement qui est très volatile. Je prends l'exemple, en 2021, le taux de rendement de Dynavi, c'était 1,90. L'année précédente, c'était 1,20. Donc, cette année, l'ensemble des produits de Monceau, que ce soit Dynavi, que ce soit le carnet multi-épargne ou que ce soit l'ancien carnet d'épargne, affichent tous le même taux de 1,75. En pratique, il faut savoir que Monceau est quand même un établissement qui a été en guerre ouverte avec le régulateur, ce qui l'a amené à changer un peu sa stratégie. L'an dernier, ils avaient vendu beaucoup de titres pour faire des réserves. Ils n'ont pas pioché dans les réserves. Franchement, je pense qu'ils auraient pu le faire parce que 1,75, ils seront vraisemblablement un peu en dessous, mais c'est peut-être aussi une concession qu'ils ont faite au régulateur pour dire qu'ils n'allaient pas casser la baraque et casser le marché. Un autre, je vous en donne un autre que j'ai trouvé également qui baisse son taux, c'est Allianz Vie Fidélité. Donc chez Allianz, on nous annonce que le taux qui sera servi en moyenne sur ce contrat-là sera de 2,12%, avec un max qui est à 3,17%, là encore en tenant compte de différents bonus. L'an dernier, c'était 2,42, donc on perd 30 centimes sur ce contrat. Alors, il y a juste un élément qui est un élément important, parce qu'on se dit « Ah, quand même, Allianz !» 2,42, ils sont bons les gars, parce que s'ils nous annoncent que la moyenne sera 1,90, ils sont bons. Le seul truc qui est qui me chagrine un peu dans le communiqué de presse de chez Allianz, c'est qu'on commence par nous annoncer la tête de gondole, le produit qu'on a envie de vendre, qui franchement n'est pas vraiment comparable aux autres, puisque l'APB n'est pas attribué systématiquement, on est bloqué pendant 5 ans sur des unités de compte. Donc on est vraiment sur un produit qui est très atypique par rapport à ce qui existe sur le reste de la place. En revanche, le rendement moyen de l'ensemble des contrats Allianz sur le fonds en euros, c'est 1,38. Alors certes, on peut être content parce que c'est un peu mieux que l'année précédente où on était à 1,29, mais on n'est toujours pas au niveau de l'année d'avant où on était à 1,40. Et franchement, je vous le dis tout de suite, Allianz à 1,38, ils seront en dessous de la moyenne cette année.
C'était le journal du fonds en euros, le petit journal du fonds en euros. On va répondre aux questions, enfin surtout vous, Jean-François. Moi, je vais les lire seulement. Gérard nous a écrit et nous dit « Il paraît qu'on va pouvoir transférer son assurance-vie d'un assureur vers un autre. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox ?»
Ni l'un ni l'autre pour l'instant. Ça pourrait devenir une info. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que les sénateurs ont de la suite dans les idées. On se rappelle qu'au moment de la loi Pacte, et vous savez que je n'avais pas été le dernier à travailler sur ce sujet-là, on avait ouvertement plaidé sur la transférabilité des contrats d'assurance-vie. On avait plaidé pourquoi ? Parce qu'on est dans un univers où quasiment tous les placements sont transférables. Vous avez un PEA, vous avez envie de quitter votre établissement, aller dans un autre établissement, vous avez le droit de le faire. Vous avez de l'épargne retraite, vous avez envie de changer d'établissement, vous avez le droit de le faire. Vous avez un PEL, vous avez envie de changer d'établissement, vous avez le droit de le faire. Vous avez un compte courant, vous avez envie de changer d'établissement, vous avez le droit de le faire. Il n'y a qu'un endroit où on n'a pas le droit de changer les choses, c'était l'assurance-vie. Donc on avait fait ça, et les sénateurs avaient soutenu, parce qu'ils avaient effectivement, à cette époque-là, voté un amendement sur la transférabilité des contrats d'assurance-vie d'un établissement vers un autre. Et moi, horrible, dans le monde de l'assurance, branle-bas de combat à l'Assemblée nationale, trouver des solutions, etc. Et donc la solution avait été de dire, on va mettre un peu plus de transparence, et quand on regarde le niveau des taux, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Et puis on avait inventé un nouveau système absolument génial, qu'on allait autoriser la transférabilité, mais au sein d'une même compagnie d'assurance. Pas mal, bien joué. Bon, il s'avère qu'on fait ça à l'arrache à l'Assemblée nationale. En pratique, il y a des gens qui lèvent le doigt et qui disent « Bonjour, j'ai un vieux contrat pourri chez vous, je voudrais avoir un contrat vieux, un contrat moderne, etc. » Et là, on dit au client « Écoute, t'es gentil, mais tu l'auras si on a envie que tu l'aies, et point. » Donc, grosso modo, il y a un texte qui a été présenté au mois de mars, qui est une proposition de loi qui consiste à renforcer la protection des épargnants. La commission des finances du Sénat s'est réunie hier sur le sujet, ça passe en séance publique le 31, et les sénateurs disent, bah voilà, on avait dit il y a 2 ans et demi qu'on était favorable à la transférabilité des contrats d'assurance-vie, on le remet sur la table. Donc ils le remettent sur la table, donc naturellement, ils ont mon soutien complet. Ils ont fait des choses qui sont assez intéressantes. Notamment, ils créent un bout du texte qui dit que si, pour évoquer mon problème à la changement au sein d'un même assureur, que c'est de droit. Autrement dit, si vous êtes client et que vous dites je veux ce contrat-là que vous vendez aujourd'hui, l'assureur peut pas vous dire non. Alors qu'auparavant, il vous disait non. Donc, il propose la transférabilité, sachant que je précise que le sujet de la transférabilité, en fait, en assurance vie, c'est absolument pas un sujet qui relève du code des assurances, c'est un sujet qui relève du code général des impôts, c'est modifier l'article 125 OA, et donc, c'est ce qu'ils font. Donc, on va suivre la discussion parlementaire. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à donner à tous les épargnants, c'est envoyer un courrier à votre sénateur, à votre député, etc., pour dire il faut le voter. On va être très honnête, je rassure les assureurs. Quand on voit la mobilité bancaire en France, quand on voit ça, quand on sait les réserves qu'ont les banques assureurs français, quand on sait les pratiques commerciales qu'ont les banques assureurs français, il y a très peu de chances que le marché décale fortement et qu'on voit les parts de marché passer de 10% d'un côté ou de l'autre. Ça aura un effet positif, mais ça ne bouleversera pas le marché.
Une dernière question, celle d'Élise. Pourquoi est-ce que la hausse du livret A au 1er février a été limitée à 3%? C'est vrai, ça, c'est beaucoup moins que l'inflation.
Alors, deux remarques. Première remarque, c'est beaucoup moins que l'inflation, mais ça, le problème, il a été résolu il y a de cela quelques années, puisqu'on a désindexé le taux du livret A de l'inflation. Donc ça a été une première décision politique. Là, en fait, si on avait appliqué la formule, on aurait dû avoir un taux de 3,3%. Mais le gouverneur de la Banque de France a considéré que c'était pas bien. Alors, il a considéré que c'était pas bien. Le communiqué nous dit que le taux du livret A est un élément très important pour le coût de financement de l'économie, dont les crédits immobiliers et les prêts aux entreprises. Là, je me permettrai juste une petite remarque. Si les banquiers aujourd'hui viennent pleurnicher parce qu'ils ont le livret A et que ça leur coûte trop cher, fallait pas qu'ils le réclament. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il fut un temps où ils ne l'avaient pas. C'était un monopole de la Banque Postale et de la Caisse d'Épargne. Ils sont allés le chercher, donc maintenant qu'ils l'ont, pour qu'ils assument. Première remarque. Deuxième remarque, le gouverneur nous dit qu'il ne faut pas que ce soit trop volatile. Donc il nous dit que ça s'appliquera à la hausse comme un jour à la baisse. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je saurais lui rappeler. En pratique, on a voulu protéger les assureurs, on a voulu protéger les banquiers. Enfin bon, on en arrive toujours à la même chose. Quand il y a des décisions politiques sur les sujets d'épargne, c'est toujours en défaveur des épargnants. Point à la ligne.
Merci beaucoup Jean-François Fillâtre, directeur éditorial de Marché Gagnant. Est-ce qu'on a encore le temps pour une autre question? Oui, me dit Sandra Gandoin qui nous a rejoint en plateau.
Allez, alors, une minute trente, pas plus.
Alors on va peut-être parler du marché immobilier. Est-ce qu'on peut répondre en une minute trente pourquoi est-ce que le marché immobilier aux États-Unis a tellement chuté l'an dernier et l'Europe moins? Jean-François.
L'Europe, en fait, on a un prisme français. En fait, vous avez quand même un phénomène. Le marché immobilier, c'est quand même un marché qui est drivé par le crédit. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui achètent cash, y a pas grand monde. Donc, l'effet du niveau du crédit est un sujet majeur. Aux États-Unis, on est en crédit à taux variable. Donc, taux variable, ça veut dire que quand vous avez une très forte remontée des taux d'intérêt, des taux courts et des taux longs, vous avez, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais vous avez les prêts hypothécaires aux États-Unis qui ont dépassé les 7%. Là où en France, on est en train d'avoir des prêts qui sont aux alentours de 2%. Donc en fait, le mouvement qu'on a eu sur les taux d'intérêt a été beaucoup plus violent aux États-Unis qu'en France. Et en France, vous savez, on a un débat sur le taux de l'usure. Professionnels disent « Ah, il faut que le taux d'usure soit désormais calculé mensuellement. » Très bien. Sauf qu'on va se rendre compte que le jour où en France, les taux seront à 3 ou 3,5%, les gens ils vont quand même se rendre compte que ça leur coûte cher. Et à ce moment-là, ils investiront moins et ça aura un impact sur les prix de l'immobilier.
Merci beaucoup, Jean-François Fillâtre, directeur éditorial de Marché Gagnant, de Paris Relevé, Défi Relevé. Vous avez répondu rapidement à la question. Dans 4 minutes maintenant, 90 minutes business, ce sera comme tous les jours avec Sandra Gondouin et ses invités. Bonjour Sandra.
Bonjour Stéphane.
Quel est le sommaire aujourd'hui?
Avec toute la team, on va parler du feuilleton Renault-Nissan proche de la fin. Après des mois de négociations, les deux constructeurs sont sur le point de signer un accord pour la refonte de leur alliance. On va en parler dans les détails avec Justine Vassogne et Jean-Marc Daniel. On parlera aussi de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ça va rester tendu encore cette année. Beaucoup de défis. On va en parler avec Jean-Baptiste Huette. Et puis nous recevrons Sweep, qui est une plateforme au cœur de l'action des entreprises pour le climat. Ce sera notre invité. Puis à partir de 12h55 avec Lorraine Goumeau, on répondra à toutes les questions que vous nous avez posées.
Merci beaucoup Sandra. Fin de cette émission. Le CAC toujours en progression. 0,77% de mieux. On est à 7098 points. On se rapproche de la barre des 7100 points. Demain, vous vous retrouverez Vincent Touraine aux commandes de BFM Patrimoine. Très bonne journée sur notre antenne.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.